It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Voyager du Groenland au pays de Caux, d'un portrait sensible d'un artiste à une vision politique d'un pays, le Festival international du documentaire nous embarque au travers de 120 films proposés sur toute la durée du festival dans des univers où des démarches personnelles côtoient l'histoire du monde. On peut avoir donc, depuis le FID, une vision globale de l'état du monde aujourd'hui, avec bien sûr des points de vue différents, des regards décalés ou non. Ce matin, tournons-nous vers deux regards, deux points de vue, l'un nous faisant entrer dans l'univers d'un lycée agricole au pays de Caux, l'autre dans la perception d'une époque, les années 70 en l'occurrence, d'une ville, Sao Paulo, et d'une femme, une psychanalyste brésilienne, Sueli Rolnick. Ce qui les unit chacun, c'est bien sûr le fait que Pierre Creton, pour Paysages imposés, et Manon Debord, pour Resonating Surfaces, et comme chaque réalisateur d'ailleurs, c'est de penser leur rapport à la caméra. De penser ou non à ce que la présence de la caméra peut transformer sur le réel, sur l'objet filmé. Alors, nous attendons toujours Pierre Creton, qui peut-être a eu du mal à se réveiller également ce matin. C'est une, peut-être, j'espère, une mauvaise habitude qui vont vite arrêter de prendre ici au FID. J'ai l'impression que les documentaristes et puis aussi peut-être le public n'est pas forcément du matin. Ils ont plus à regarder, c'est plus, je ne sais pas, plus facile de regarder les films le soir que le matin. Donc le public arrive petit à petit dans cette agora, donc juste derrière l'auditorium du Palais du Pharo, Festival international du documentaire. Donc je suis avec Manon Debord, juste à côté de moi. Bonjour Manon. Alors évidemment, il faudrait prendre un micro. Donc commençons sans Pierre. Manon Debord, vous êtes cinéaste, vous êtes aussi artiste plasticienne. D'ailleurs, vous avez commencé votre carrière vous êtes une artiste, puisque vous avez fait l'école des Beaux-Arts à Amsterdam et puis en Belgique. Et puis,
pas en Belgique, en fait, non.
Pardon.
Non, j'ai fait l'école d'art à Amsterdam, mais après je suis déménagée à Bruxelles.
D'accord.
Mais je n'ai pas fait d'école d'art là.
Donc vous êtes artiste plasticienne, comment vous êtes entrée finalement dans l'envie de faire du cinéma et de prendre une caméra? À quel moment dans votre carrière ou dans votre enfance ou jeunesse, ou je ne sais pas, à quel moment vous avez eu envie de prendre cet objet et de l'utiliser?
C'était bon, peut-être il y a 10 ans, oui, environ. Je faisais plutôt des photos et à un certain moment j'avais envie d'utiliser la durée. Et à ce moment-là, j'ai fait des portraits en super 8. C'était un portrait de 3 minutes, la durée d'une bobine, de quelqu'un qui était concentré sur quelque chose, qui lisait, qui faisait de la musique. Et c'était des portraits sans son, que le portrait. Il ne se passait rien sauf la durée du film. Donc pour moi, c'était des photos avec la durée. Et c'est ça le début d'utiliser surtout le super 8 en fait.
L'image sans son, 10 ans après, je ne vais pas dire que c'est l'inverse, quoi, mais en tout cas, la matière sonore est très présente dans votre travail. Dans Resonating Surface, vous êtes resté sur l'idée du portrait.
Oui.
C'est un portrait d'une artiste, enfin, pas d'une artiste, pardon, mais d'une psychanalyste brésilienne, où on la voit, effectivement, mais où le son est très présent, quoi. Et on a eu presque envie. On pourrait presque penser que vous avez envie de faire disparaître l'image par certains moments pour au contraire faire émerger la matière sonore.
Oui. Bon, c'est tout un parcours en fait. En même moment que je faisais ce portrait super vite, j'étais très intéressée par la mémoire et comment les gens se rappellent leur vie. Donc j'ai commencé à faire des entretiens avec des gens et petit à petit, le texte a entré dans mes travaux. Et c'était encore vraiment du travail que je montrais dans des lieux artistiques, pas dans le cinéma. Et j'ai fait un film qui a montré ici il y a 2 ans, Sylvia Christel Paris. Et c'était aussi beaucoup sur la... c'était vraiment aussi le, comment elle se rappelle sa vie. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai travaillé avec quelqu'un pour faire une bande-son. Et là, j'ai vraiment découvert le son dans le travail et comment ça peut donner une couche du sens supplémentaire et autonome, en fait, dans le film. Et dans Resonating Surfaces...
Pierre Creton, donc, qui arrive... avec nous, bonjour, bonjour Pierre, vous êtes accompagné.
Alors, Vincent Barré.
Vincent Barré.
Co-réalisateur de l'Arc d'Iris.
Très bien. Alors, je vous invite à prendre évidemment un micro.
Okay.
Je vous présente Manon Debord, qui est réalisatrice et qui présente ici Resonating Surface, qui est un portrait d'une psychanalyste brésilienne. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Pierre, de voir quelques films depuis que vous êtes arrivé.
C'est vous qui aviez réalisé le film, le portrait sur Sylvia Christel, d'accord, qui était présenté l'année dernière, il y a deux ans. Non, je l'ai pas vu celui-ci, le nouveau.
Ok,
d'accord. Enchanté.
Donc avec Manon, nous discutions de son parcours, du fait qu'elle a commencé à prendre une caméra Super 8 pour avec la bobine de 3 minutes, filmer un portrait. Et puis après est arrivée l'envie de travailler plus particulièrement avec le son et de rajouter une surface, comme elle dit, une matière à l'image. Et donc voilà, de voir comment d'une image, on passe à une image sonore.
Oui, oui.
Pierre Creton, vous êtes cinéaste. Vous présentez ici Paysages imposés, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Vous êtes par ailleurs, vous avez un autre métier que celui de cinéaste, qui est de peseur au contrôle laitier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, parce que...
Oui, alors pour simplifier, on pourrait dire que je suis ouvrier agricole. Voilà.
D'accord.
c'est plus simple, puisque je ne suis plus peseur au contrôle laitier. Je l'ai été pendant 5 ans, en tout cas le temps de la réalisation du secteur 545. Voilà, qui avait été présenté à Marseille il y a 3 ans.
Alors, j'ai envie de vous demander, puisque là, l'objet de ce plateau, de cette émission, c'est vraiment de partir de la caméra et de voir comment vous pensez, en tant que réalisateur, la présence ou non de la caméra, évidemment, comment le spectateur peut percevoir ou pas la caméra dans le film, parce que des fois, on peut complètement l'oublier, on s'embarque dans le film et on oublie qu'il y a une caméra qui est en train de... qui est l'objet qui transmet. Comment vous percevez un petit peu cet objet? Là, donc pour commencer, j'ai envie de vous demander tout simplement votre première expérience avec une caméra. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors quand vous étiez peut-être plus jeune ou récemment, de prendre cet objet et de vous mettre à filmer? Quel fut le déclic?
L'envie de filmer et de prendre une caméra est venue d'avoir vu des films, voilà, est venue de voir le cinéma et de m'y mêler, je dirais.
Sans pour autant rentrer complètement non plus dans ce monde-là pour en faire uniquement votre métier, enfin je veux dire, en faire que ça.
Oui, parce qu'en plus, c'est d'abord passé par le dessin, en fait. Voilà. Avant de prendre la caméra, ce qui était quand même un peu plus compliqué, j'ai commencé par prendre un crayon, ce qui était quand même plus simple et plus accessible. Mais après, je dirais que c'est des histoires d'outils, mais c'était peut-être pour une tentative de faire un peu la même chose, quoi.
Alors comment, avec cette caméra, justement, vous travaillez? Manon Debord, là, sur ce film, Resonating Surface, vous n'êtes pas en possession de la caméra. Alors où êtes-vous pendant le tournage? Comment se passe-vous votre rapport à cet objet, si vous ne filmez pas?
C'était la première fois que j'étais pas derrière la caméra, en fait. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai toujours eu beaucoup de soucis techniques. Et donc c'était plus calme pour moi parce que On a filmé des endroits et des situations qui étaient, que je me souvenais des autres fois que j'étais au Brésil. Donc c'était un peu d'essayer de retrouver certaines choses que j'avais vues, des situations de vue de la ville, mais aussi surtout des situations entre certaines personnes. Et comme ça, on pouvait mettre la caméra et le caméraman pouvait tout contrôler. Et moi, je pouvais plus essayer d'installer cette même intimité, le même sentiment que j'avais sans caméra avant.
Et est-ce que vous essayez, enfin, est-ce que vous contrôlez quand même ce que filme le caméraman ou vous le laissez libre de choisir les plans qu'il a envie?
On regarde ensemble tout le cadre et le mouvement et tout ça, et après je le laisse libre. Donc c'est assez contrôlé encore.
Pierre Creton, dans Paysages imposés, vous rentrez dans l'univers d'un lycée agricole et on rencontre des ados, évidemment, qui sont en plein apprentissage, aussi bien de leur métier hein, en tant que futurs agriculteurs, paysans, et de comment ils vont prendre conscience du paysage qui les entoure, comment ils vont pouvoir le contrôler, ou en tout cas, pas seulement être producteur, enfin produire, mais aussi pouvoir avoir
une conscience,
ouais, une conscience de ce qui les entoure. Et donc vous les filmez. Enfin, on a l'impression que vous les connaissez et que vous rentrez presque dans. Enfin, ils sont très naturels à l'écran. Comment vous arrivez comme ça à capter ce naturel?
Pour ce film-là, je dirais que c'est quasiment la première fois que j'ai cette proche là, un peu distante malgré tout, parce que tous mes films précédents, il y a une relation très très intime avec les personnes que je filme. Là, on se connaît pas tant que ça en fait, du fait que en plus j'ai pas de statut autre que celui de réalisateur pendant que je filme au lycée. Alors que tous mes autres films, j'ai souvent filmé sur les lieux du travail, donc la plupart du temps sur plusieurs lieux, j'ai toujours été ouvrier, voilà. Donc là, j'ai que ce statut de réalisateur. Alors comment ça a marché, je dirais, parce que finalement, ça a quand même assez bien marché, mais je n'en savais vraiment rien en commençant le film. Je m'y suis introduit petit à petit.
Vous avez commencé à y rentrer sans la caméra ?
J'ai commencé à y rentrer sans la caméra, non, pas vraiment. Bon, ce qui m'a quand même permis d'y entrer, je crois, c'est le fait de connaître certains élèves qui étaient fils et filles d'agriculteurs, chez qui j'avais travaillé chez leurs parents en tant que peseur ou en tant qu'ouvrier agricole, justement. Donc avec quelques-uns comme ça, ça a créé un lien et du coup qui faisait le lien avec les autres, quoi. Bon, aussi, ils ont vu le secteur 545, donc ça crée du lien aussi, quand même, une relation. Et voilà, après, je crois qu'ils ont un peu oublié ma présence parce que j'allais filmer comme ça dans les classes. Donc au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, ils m'ont un peu oublié.
Il y a une scène dans laquelle on voit deux adolescentes en train d'apprendre à monter une machine.
Alors, oui.
Une machine, je ne sais pas si c'est une machine pour pasteuriser le lait ou...
C'est une écrémeuse.
Une écrémeuse. Donc elles assemblent comme ça des pièces de la machine et puis à un moment elles se trompent, je ne sais pas, donc elles rigolent et elles se tournent vers la caméra en disant « Bon là... » Et donc elles ont conscience quand même que vous êtes là et elles jouent avec la caméra.
Un peu, oui, elles sont... C'est quand même les gens maintenant, ils sont quand même ils ont quand même une culture, je dirais, de l'image, essentiellement par la télévision, mais les gens sont quand même très conscients de qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce que c'est qu'un cadre. Donc voilà, elles sont à la fois on sait pas quelle est la part du jeu de montrer ou de faire semblant qu'elles oublient ou qu'elles oublient réellement. C'est très subtil, ça.
Est-ce que, évidemment, vous avez conscience que ce que vous filmez, parce que vous êtes là et parce que vous filmez, ça peut changer peut-être le réel, ça peut le transformer. Est-ce que cette transformation-là vous intéresse ? Est-ce que vous avez aussi envie de capter ? Ou au contraire, est-ce que vous avez plutôt envie de pas transformer le réel et d'être le plus discret possible et de se faire tout petit pour essayer, voire même invisible, pour filmer le réel ? Pierre ou Manon ? Manon Debord.
Moi, je ne veux pas qu'on oublie la caméra. Mais, pour moi, c'est important qu'on sente qu'il y a quelqu'un de présence derrière la caméra et qu'il y a une relation entre cette personne et ce qu'on voit. Et encore plus dans les entretiens. J'ai besoin qu'on sente qu'il y a une relation entre la personne qui est interviewée et moi. Et c'est pour ça que je n'utilise jamais la caméra quand je fais des entretiens. Parce que pour moi, c'est la caméra vraiment entre moi et la personne. Même si ce sont toujours des monologues, donc on entend pas moi dans le film. Je sens beaucoup ma présence toujours dans
ça. Nous aussi, on la sent. Enfin, vous êtes là, c'est vraiment un rapport intime au personnage qui est filmé. Et c'est un portrait très sensible de cette personne. Et effectivement, on se demande si vous êtes derrière la caméra ou si vous êtes plutôt à côté d'elle et que la conversation se passe... votre relation se passe aussi en dehors de la caméra.
Oui, mais je fais tous les entretiens sans caméra. Et on voit cette personne parler, mais c'est jamais synchronisé avec la voix. Donc, ce sont deux choses que j'ai fait, pas en même temps, mais à part.
Vous faites l'entretien avec la personne pendant que, voilà, juste au son, alors avec un micro.
Oui, c'est ça.
Et là, c'est vous, pour le coup, qui tenez le micro.
Oui, c'est ça. Oui, on est toujours seul, sans autre personne. Et après ou avant, je filme la situation que je veux filmer. Et bon, là, on voit des gens parler, souvent avec moi, mais il y a quelqu'un d'autre derrière la caméra. Mais ce n'est pas ce son que j'utilise. Qui est filmé pendant la caméra est là.
Oui, il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on voit effectivement la personne, et puis on la voit parler, on la voit qui est en train de parler à une autre personne, et par contre ce qu'on entend, ce n'est pas du tout synchro avec l'image, mais on peut se dire que ça peut être issu du même entretien quand même, que ça peut être peut-être ce même jour qu'a été pris le son.
Oui, il y a un doute.
Pierre Croton, sur cette idée de transformer ou pas le réel lorsqu'on filme avec la présence de la caméra, est-ce que des fois vous avez le sentiment de paraître gênant ou de vous dire mince, là je suis peut-être en train de. J'aurais pas envie qu'on me voie, j'aurais envie de filmer, mais sans qu'on me voie, ça aurait.
Non, d'abord je me dis pas ça, et puis effectivement je crois que bon, le réel, dès lors qu'il y a. Enfin bon, la caméra c'est quand même. Enfin voilà, comment parler finalement de réel à partir du moment où il y a la caméra et qui prend en compte un cadre et un choix, un point de vue, etc. Bon, c'est quand même.
Ouais.
Donc voilà, mais j'ai jamais envie, en tout cas, que les choses soient filmées à l'insu de l'autre, quoi, ou que la caméra soit simulée.
On vous sent plutôt, au contraire, très proche, même on vous sent en train de suivre vos personnages. Il y a une scène comme ça où on suit un ado de très près, il est en train de marcher, il est dans une réflexion,
oui.
et la caméra est vraiment sur lui.
Effectivement.
Oui, d'accord. Donc peut-être sur le choix de la caméra, le fait effectivement de pouvoir suivre un personnage, est-ce que vous utilisez, il vaut mieux une petite caméra, une caméra DV, mobile, flexible, ou au contraire, si vous filmez avec une bêta, j'imagine que ça change aussi pas mal de choses. Pierre,
Moi, je filme avec une toute petite caméra et sans équipe pour la plupart du temps.
Vous êtes tout seul sur le lieu du tournage ?
Et oui, sur le paysage imposé, oui, j'étais tout seul. Donc j'ai fait l'image et le son, si on peut dire qu'un son a été fait. Oui, j'ai été seul avec vraiment le matériel le plus léger possible. Et c'est souvent le cas.
Manon, dans Resonating Surface, on a l'impression, donc vous parliez tout à l'heure de la présence du son qui est effectivement en décalé par rapport à l'image et qui est très forte, que l'image pourrait presque se soustraire au son. Et ça me fait penser que finalement le support, ça pourrait être autre chose. Vous pourriez tout à fait montrer votre travail dans un autre support que celui de l'écran plat, dans une salle de projection, que finalement le spectateur pourrait tout à fait rentrer dans l'univers, dans votre univers et dans l'univers de la personne avec autre chose, ou avec l'image, mais en tout cas peut-être dans un autre dispositif. Donc vous parliez du fait que vous vous exposez beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'on peut toujours... Moi, je cherche toujours des formes différentes pour présenter mes idées ou développer les idées plutôt.
Le film
Resonating Surfaces, au début, l'image est quand même très importante. Et ce que je voulais, c'est que le portrait, la surface de la ville que je filme au début, donc que ça fait écho au bon son et au texte qui vient plus tard. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un film de ça, parce que je voulais aussi, parce que j'aimerais bien utiliser le son, le texte et l'image comme trois espaces. Et bon, c'est ça qu'on peut faire le mieux en film, en fait.
C'est vrai que d'utiliser le film, l'écran peut être, enfin, au cinéma c'est quelque chose de très classique, et on peut tout à fait faire un documentaire et raconter quelque chose de sensible, peut-être en le montrant différemment, en utilisant peut-être, voilà.
Oui, je fais aussi des projets sur Internet, mais j'étais pas très contente avec ça, parce que c'est très difficile à situer le spectateur, la personne qui regarde le travail. Et pour moi, c'est toujours aussi j'aime bien que ça interroge à un certain niveau la perception, la continuité du travail, le travail. Et dans un film, c'est plus... Je peux plus le contrôler, parce qu'on le voit du début à la fin, donc il y a un certain développement que le spectateur veut avoir, et sur Internet, ils vont très vite sur quelque chose que je ne veux pas, donc je n'ai pas cette contrôle de mise en scène, en fait, du travail au Internet que dans un film.
Pierre Croton, sur la diffusion de vos films, est-ce que c'est justement dans une salle de cinéma, là, comme des festivals de documentaires, que vous avez envie de le montrer ? Est-ce que c'est une finalité plutôt télévisuelle ? Est-ce que c'est... Ou ailleurs, ou dans un autre cadre ?
C'est pas une finalité télévisuelle, je pense jamais à la télévision. Pour moi, l'idéal, c'est de le montrer dans les salles ou dans des festivals, effectivement.
Et parce qu'on a, quand on voit Paysage imposé, il y a une vraie envie d'ouvrir les consciences, effectivement, aux jeunes sur le paysage, sur le fait que c'est à eux aussi de s'engager, de faire attention et de prendre conscience, qu'ils sont en train de construire ou de détruire, qu'ils peuvent en tout cas détruire le paysage qui les entoure. Est-ce que justement, c'est un film que vous avez envie de projeter dans l'univers, enfin dans leur monde aussi, donc.
Oui, c'est prévu que le film soit montré dans d'autres lycées agricoles.
J'avais envie de poser la question de qu'est-ce que vous aimez quand vous filmez. Donc là, Manon, sur Resonating Surface, vous n'avez pas pris la caméra, mais dans le prochain, je sais que vous l'avez prise. Donc dans l'acte même de filmer, qu'est-ce qui vous intéresse ?
C'est difficile. J'aime bien ce regard tout à coup très très concentré qu'on a quand on est derrière une caméra. On doit faire des choix et bon, j'aime bien cette concentration, c'est ça que j'aime bien. Bon, c'est toujours un peu, on est très tendu, on cherche, y a des choses qui échappent et c'est ça qui me donne beaucoup de plaisir surtout.
Le fait à la fois d'être concentré sur un objet très précis et en même temps d'être détaché du reste.
Oui, c'est ça. Et voir ce qui se passe tout à coup dans un cadre et qu'est-ce qu'on choisit et pas de filmer à ce moment-là. Parce qu'on est conscient de beaucoup plus qu'on peut filmer aussi.
Pierre Cretan, sur le choix justement des plans et sur le fait que vous êtes présent dans une salle de classe ou voilà, dans un environnement, dans un paysage, dans un environnement, qu'est-ce que vous aimez voilà, quand vous filmez ou quand vous choisissez les plans que vous avez envie de montrer, de diffuser?
Je crois qu'il faut partir du projet, de l'écriture et du tournage et... Et il y a beaucoup d'attentes, je crois, dans le tournage, qui est un moment effectivement assez excitant. Enfin, ça paraît un peu, oui.
Le tournage, c'est presque la consécration. C'est une fois qu'on est sur place, en train de tourner, c'est le début de l'écriture, ou au contraire, c'est le.
C'est une continuité de l'écriture, mais c'est vraiment en réalité au montage que les choses. Ou peut-être pour moi, en tout cas, j'ai le plus de plaisir à voir les images. Parce que un peu, y a cette attente qui est assez agréable et en même temps, bon, cette angoisse aussi de...
Cette angoisse, oui.
Cette angoisse de quoi ?
Que c'est pas comme ce qu'on a vu, ce qu'on a senti.
Que ce soit exactement comme c'est.
Et alors, souvent, vous êtes content ou...
Et alors, des fois, c'est pas comme oui. C'est exactement. Et il s'est passé quelque chose.
Quand même. Et c'est vrai que le fait d'être au moment du tournage, sur le lieu même du tournage, donc de planter quelque part la caméra, forcément, comment ce moment-là, il se vit ou il se construit.
C'est tellement étrange finalement de choisir un endroit quelque part où on filme, enfin à la fois précisément, enfin oui, très précisément, alors que bon, c'est. Il y a quand même une étrangeté, quoi.
Ça fait, c'est, vous en tenez compte déjà dans l'écriture du projet, séquence dans le lycée, à l'intérieur de la salle de classe, tiens, j'ai envie de prendre tel plan, d'avoir une vision d'ensemble, ou au contraire de faire un plan rapproché sur une lycéenne, enfin, est-ce que tout ça c'est écrit ou...
Non, pour ce film-là, c'est pas très écrit. Après, c'est très différent d'un film à l'autre. Il y a des films qui sont très écrits, d'autres moins, et celui-ci quand même très 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 peu, quoi. Voilà, je sais de quoi je pars, de quel désir, mais après je vais un peu à la découverte quand même.
Qu'est-ce qui fait que d'un projet à l'autre, ça sera plus la caméra qui va écrire au fur et à mesure, ou au contraire le stylo ou en avant?
Ben, je crois que c'est le sujet même ou le désir de le désir de quoi ça part, quoi, qui va nécessiter plus ou moins une écriture.
Peut-être l'envie des fois d'aller un peu au hasard et de voir, bon ben on verra bien ce qui va se passer.
Oui, oui, moi aussi je n'utilise jamais l'écriture avant. Je rassemble des images, je rassemble des entretiens surtout. Et c'est souvent à partir des entretiens que je commence à décider ce que je veux filmer. Mais je rassemble beaucoup d'images, je filme et je retourne et je fais un petit montage et je retourne encore pour filmer. Et donc ça, c'est un peu comme un collage presque, que tout se construit. Mais c'est toujours le texte qui est vraiment le départ.
Ce qui est plutôt rare, quoi. Généralement, c'est la bande-son est pensée avec l'image,
ouais.
Ou à partir de l'image, mais c'est plutôt rare que ça soit l'inverse.
Mais je... Bon, je parle du texte, surtout, et après, il y a l'image, et après, je commence avec le son, et après, je retourne encore pour faire d'autres images. Donc, c'est un peu comme tout est en dialogue. Un couche, il y a trois couches pour moi. Ils sont tous les trois en dialogue l'un avec l'autre. Et comme ça, ça se construit. Et c'est pas qu'un illustratif pour l'autre couche. Ils sont tous autonomes pour moi. Et je peux faire une... En fait, j'essaie toujours de faire des sortes de lignes obliques dans le film, entre un couche et un autre. Et... je ne sais pas si c'est clair, mais ouais. C'est un peu fou.
J'ai pas vu votre film, mais c'est apparemment une figure célèbre, c'est ça, de la psychanalyse, c'est ça
la... Oui, Sveli Romek. Elle est très célèbre au Brésil, mais je crois aussi ici, dans le milieu.
Ouais.
Et elle a étudié dans les années 70 à Paris. Parce qu'elle était en exil de la dictature au Brésil. Souris, le micro. Donc elle a vraiment formé à Paris, mais après elle a retourné au Brésil. Donc elle a amené son éducation de psychanalyste, théorie, philosophie française au Brésil.
Vous l'avez rencontré, comment? Enfin, avant de la rencontrer, je veux dire, vous connaissiez son travail.
Je l'ai rencontré au Brésil par une amie et je ne connaissais pas son travail, mais elle a écrit beaucoup sur l'art aussi, surtout sur l'artiste Ligia Clark, qui est une artiste brésilienne des années 70, mm-hmm. peu 80 encore, elle est morte maintenant. Elle a aussi vécu à Paris pendant la dictature. Et Sveli, elle a beaucoup écrit sur Ligia Clark. Et j'aime beaucoup, quand on m'a dit qu'elle avait écrit sur Ligia Clark, donc j'ai lu ça au même moment que j'ai rencontré Sveli. Donc c'était un peu central là, mais après, on est devenus amis, en fait. Et elle m'a raconté des choses qui... je voulais faire un portrait de Sao Paulo, mais après j'ai décidé de faire un portrait d'elle parce que c'était. Je voulais aller plus profond dans cette histoire individuelle que dans l'histoire, dans le portrait de la ville. Mm-hmm. Et bon, je suis pas très. Je connais pas très la psychanalyse, donc c'est pas ce sujet, c'est vraiment elle, son histoire qui m'intéresse.
Oui, puis on est plongé dans une époque aussi, celle des années 70, celle de la contre-culture au Brésil.
Ouais.
Et en fait, on ne sait pas pendant le film qu'elle est psychanalyste. Enfin, peut-être on peut le deviner, mais ce n'est pas forcément très clair. Par contre, on rentre vraiment dans son univers, dans les mouvements qu'elle a traversés dans les années 70, dans son aspect très militant, très engagé, dans son histoire avec Deleuze.
Oui, c'est ça.
Donc, on rentre dans dans une époque, dans une ville.
Oui, ce que j'aime bien dans son histoire, c'est qu'elle a vraiment compris toutes ces théories de Deleuze et Guattari par son propre expérience. Oui, son expérience l'a fait penser à certaines choses et par cette théorie, elle a compris certaines choses sur elle, mais aussi sur la théorie. Et donc, ça ne reste pas trop théorique, c'est vraiment une vécu qu'elle raconte. C'est ça qui m'intéresse.
Et puis, vous montrez aussi des images d'archives de l'époque, il y en a quelques-unes.
Non, je ne montre pas.
J'ai un souvenir, alors peut-être que je l'imaginais, peut-être que ça a marché. J'ai un souvenir de Deleuze, justement, dans une université.
C'est très drôle parce que il n'y a pas. Mais elle raconte, non, mais elle raconte ça à une manière. Parce que c'est plus. C'est incroyable. Non, mais c'est plus. Vers la fin du film, les images deviennent très blanches et très, très obscures.
Et c'est pour, donc, ça laisse à l'imaginaire.
C'est pour ça que je voulais que la voix et son histoire étaient beaucoup plus présentes. Que c'était surtout son histoire qui évoquait des images. Et elle raconte cette situation que Deleuze est là devant la classe.
Et moi, je l'ai vu. Hein.
On voit qu'un écran presque blanc, je pense, à ce moment-là.
Oui, voilà,
donc, c'est la projection de son histoire qui a fait ça.
Vous pourriez faire un film où il n'y a aucune image, juste du blanc et du son. Et on peut s'imaginer les images qu'on veut.
Oui, c'est ça.
De bord.
Bon, merci beaucoup Pierre Creton et Manon Debord d'être venus donc, en direct à Radio Grenouille pour le Festival international du documentaire qui évidemment continue jusqu'au 11 juillet. Vos films continuent à être en projection, même s'ils ont déjà été projetés ces jours précédents, ils sont de nouveau visibles, j'imagine.
Ils sont projetés, donc l'Arc d'Iris donc, et Paysages imposés demain à 7h15 et lundi. Et un autre film dans la programmation d'Emmanuel Burdeau,
oui, parce
qui s'appelle
qu'il n'y a
Be
pas
With
que
Me, un film qui s'appelle Le Voyage à Vézelay. Voilà. Oui. Également. Avec Françoise Lebrun.
D'accord. Que l'on entend.
Que l'on entend.
Dans Paysage imposé.
Que l'on entend dans le paysage imposé et que l'on voit dans le. dans le voyage à Vézelay.
Manon Debord, Resonating Surfaces, a été montré hier.
Et il sera montré demain à 11h, dimanche, et lundi aussi, le matin, je ne sais plus l'heure.
Voilà, rappelons que chaque film en fait, qui sont en compétition dans le festival est montré trois fois. Donc il y a vraiment de différentes occasions, si vous les avez ratées, de continuer à les voir. Prochain rendez-vous avec le feed sur Grenouille, 13h30, avec un portrait d'Ariane Michel qu'a fait Olivier. Ariane Michel qui est une réalisatrice qui a montré hier Les Hommes, un magnifique documentaire qui se situe dans le nord-nord-nord, dans le Groenland. Et puis 15h, c'est la diffusion de la bande-son du film Parezo de Felipe Guerrero. À 18h, le magazine, animé ce soir par Xavier, qui reçoit des membres du jury Médiathèque. Et puis, bien sûr, comme tous les soirs, sur la terrasse du Pharo. Et c'est gratuit. Si vous n'avez pas envie de voir de films, ce n'est pas un problème. Vous pouvez écouter des DJ et live que propose Radio Grenouille, donc qui se situe sur la terrasse du Palais Pharo, avec une superbe vue sur la ville. Et ça, c'est à partir de 19h. Merci à tous. Et puis à bientôt.
It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest, and finally the Israelis. What a history.